Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches de 11h à midi avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour, savez-vous combien de soleil il vous reste jusqu'à la fin de votre vie? Passez vos mains autour de la colonne, vous le saurez.
Nous étions dans la région de Mitla dimanche dernier.
Nous arrivions à Mitla, plutôt dans cette vallée de Oaxaca. Vous rappelez-vous de ces deux jours qu'on vit toujours à la fin du printemps, qui ont quelque chose de, je vais dire, de magique, parce qu'on se rappelle très bien de ces journées-là, uniquement à cause d'une sensation sur la peau, de la température du soleil, de la lumière. Ces deux jours parfaits où on se dit, tiens, ça c'est vraiment ce que j'aimerais vivre toute l'année. Eh bien, quand on arrive dans la vallée de Oaxaca, on vit cela toute l'année. Et c'est un choc parce que 1600 mètres d'altitude, le printemps éternel, cette impression de confort absolu, d'opulence en même temps. Et Mitla, c'est curieux parce que quand on commence par ce site-là, c'est un peu, on est à quelque chose comme 40 ou 35 ou 37 kilomètres de Oaxaca. Donc on n'a pas encore abordé la capitale de l'État, qui est une ville importante, qui était un site précolombien. Quand on dit Oaxaca, on dit Monte Albán, on dit Mitla. Or Mitla, ça se trouve justement sur cette route qui part vers le sud, presque à la fin de cette vallée magique, de cette vallée riche, tempérée, extraordinaire. On a déjà vu des maguets, là on plonge gentiment, on descend de cette sierra. Et tous ces maguets en forme de mezcal, puisqu'on parlait d'alcool la dernière fois où nous nous sommes croisés, on avait même fait du mezcal à partir de cet ananas central, on en a même bu, on a même décollé un peu du sol. Lorsqu'on arrive à Mitla, c'est un peu la fin de la vallée. Mitla, c'est vraiment le contrôle de la panaméricaine d'aujourd'hui, donc de la panaméricaine du passé, qui permettait de descendre sur Tehuantepec. Mitla, c'est une petite déviation sur cette route où tout à coup on longe, il y a une grande allée d'Ahuehuete. Ahuehuete, c'est un mot que j'aime bien prononcer.
C'est quoi, c'est un fruit?
Wewe, non, c'est un arbre.
Ah,
Wewe, ça signifie vieux. Vieux, vieux. Wewe, c'est deux fois vieux. Mm-hmm. Ahuehuete, c'est vraiment l'arbre ancien. L'arbre qui pompe l'eau dans le sous-sol, un peu comme notre peuplier, mais qui a des branches qui retombent un peu comme des cheveux, qui souvent encore des lichens supplémentaires qui traînent autour. Il y a ce vent que j'évoquais, très doux, cette brise chaleureuse. Et vous suivez cette rangée d'arbres, et tout au bout, vous avez un petit village qui ne ressemble à rien, avec des petites maisons sur un étage. Très peu de tôles, mais enfin, vraiment la maison Pueblo, vous voyez, le petit carré comme ça, une porte d'entrée, et tout à coup, alors des centaines, des milliers de tapis, de dentelles, de choses au crochet, et devant toutes les maisons, on a l'impression qu'on va vous vendre
là,
quelque chose.
On est à Mitla.
On arrive D'accord. à Mitla. Et Mitla, c'est déjà un nom curieux, parce que Mitla, c'est à la fois zapothèque, c'est à la fois mixtèque, mais en mixtèque, Mitla veut dire l'endroit des morts. Mitla, Mitlan, Mitlan, c'est le lieu des morts en aztèque aussi. Et finalement, Mitla, c'est l'endroit des morts parce que on a remarqué qu'il y avait eu une curieuse façon de construire, ou plutôt, sur le plan hypothétique, maintenant, on commence à comprendre comment fonctionnaient les palais de Mitla. D'abord, les mixtèques ou les zapothèques sont des gens étranges. Ils ont eu beaucoup de communication avec le sud, avec peut-être même, on ose pratiquement aujourd'hui imaginer qu'il y a eu des contacts avec l'Amérique centrale, peut-être même Panama, ou même plus bas. Et ce sont les premiers qui vont commencer à travailler l'orfèvrerie, le filigrane, la fonte des métaux précieux avec la cire perdue. Ce sont des artisans éblouissants qui vont faire des céramiques avec des couleurs somptueuses et qui nous ont construit ici, dans ce petit lieu de Mitla, je vais dire 5 parce que ce sont les plus visibles, 5 palais. Alors, comment faire imaginer par les ondes ce que sont vraiment les palais de Mitla? Eh bien, je dirais que ce sont des enclos parfaits. Des enclos qui sont construits à 10-12 mètres de hauteur. Donc, vous prenez une grande boîte, hein, une grande boîte carrée, et vous la posez carrément sur le sol. Et tout autour, en faisant des sortes de découpages, ou plutôt d'une façon de revenir sur l'intérieur, de créer une forme de croix, enfin, ce que vous voulez, mais toujours avec une unité. Hein, c'est-à-dire le bas extrêmement lisse, et une partie complètement décorée au centre, et puis une sorte de toit qui revient en avant mais qui est complètement plat.
Donc en quelle matière ?
C'est de la pierre. De la pierre pure, de la pierre qui même dans la partie centrale est travaillée de façon complètement aberrante. Il y a des centaines et des centaines de motifs qui sont en fait des grecs, hein, des motifs géométriques extrêmement complexes, et ces grecs vont vous permettre de découvrir, parce que laissez-vous aller là mentalement, vous prenez votre mezcal ou prenez votre drogue et vous allez voir que tout à coup vous pensez à de l'eau, vous pensez à une vague, vous pensez à un nuage, vous pensez à un éclair, il y a quelque chose d'électrique dans cette grecque. Mais ce qui est fou, c'est que ces grecques sont faites avec des pierres comment est-ce que je pourrais vous décrire cela? Vous avez déjà vu vos CD en pile ou vos livres posés en pile dans la bibliothèque? Eh bien, imaginez un livre qui fait 30 à 40 cm de profondeur et qui ne fait que 10 à 12 de hauteur. Donc, vous le prenez sur la tranche, la petite tranche, et vous alignez vos livres les uns à côté des autres, et avec ces livres qui sont des pierres découpées, finalement, complètement taillées, vous allez former la grecque. C'est chaque morceau de la grecque en forme de vague extrêmement stylisée, très géométrique et très cassante, comme ça, et bien vous allez la faire avec ces tranches qui sont enfilées dans la profondeur de la maçonnerie. C'est complètement aberrant. Ça veut dire que vous avez taillé des pierres de 30 à 40 cm de profondeur pour qu'on n'en voit que 2 à 3 cm à l'extérieur. Donc au point de vue travail, c'est complètement affolant.
On les voit pas de l'intérieur ?
Non, on voit, c'est vraiment dans le mur. Les murs font souvent plusieurs dizaines de centimètres, pour pas dire carrément un mètre d'épaisseur.
Ah ouais, d'accord.
Donc on a simplement créé des mosaïques, si vous voulez, visuelles, avec ces tailles de plus en plus difficiles, et souvent avec des angles qui sont cassés à des endroits encore plus fous que ce qu'on oserait imaginer pour être pratique. Alors ce qui est encore plus...
Vous avez donc bu trop de mezcal.
Et non seulement ils avaient envie de dépenser de l'énergie après avoir bu le mezcal, mais ce qui était encore plus aberrant, c'est que ces pierres complètement taillées étaient ensuite complètement recouvertes avec du plâtre. C'est-à-dire qu'on ne voyait même pas ce qu'on avait fait dessous. Donc c'est de l'énergie pure qui est mise en boîte simplement pour faire un décor qui lui-même a quelque chose de divin, de magique, de... Quand on se laisse à observer ces différents motifs qui sont autour, là je suis encore autour de la boîte, on est déjà fasciné par l'image publicitaire extérieure. On se dit, ces gens-là ont un pouvoir extraordinaire. Ils connaissent les nuages, ils connaissent la pluie, ils connaissent les saisons. Tout ce qui nous passe dans la tête au point de vue agricole, au point de vue saison, au point de vue cosmique, vous le voyez sous vos yeux s'agiter. Un peu comme quelque chose qui grouille, qui bouge, hein, comme un nuage que vous voyez maintenant passer dans le ciel qui est bleu avec ses cumulus blancs éblouissants et puis ces cactus qui sont là un peu partout. Ambiance. Et à partir de là, eh bien, vous allez imaginer que vous allez pénétrer dans cette espèce de boîte, de carré, qui elle-même représente du pouvoir avec des patios, des labyrinthes et encore des Grecs à l'intérieur.
The night train is coming.
Nous sommes à Mitla, nous sommes dans ces palais.
Des palais, il y en a 5, donc ils sont tous isolés les uns les autres. Le plus visible quand on arrive là dans cette... Vous savez que les barrières dans ce coin-là sont faites avec des cactus cierges justement. Ces cactus qu'on plante simplement dans le sol et puis ils continuent à pousser simplement. Ils continuent à monter comme cela doucement vers le ciel. Et puis ce sont des défenses tout à fait valables. On n'a pas besoin de mettre de fil de fer barbelé. On colle les cierges les uns à côté des autres. Et ça pousse bien. Alors ça, c'est un peu le décor de Mitla, avec au fond une toiture rouge en coupole démultipliée. C'est l'église même de Mitla. L'église qui a été posée au milieu d'un de ces palais et qui a utilisé véritablement les murs, ces fameux murs à grec que j'évoquais tout à l'heure, mm-hmm. comme étant le cœur même de cette église. On a même démoli une partie de ces palais pour la faire, pour la créer, pour bien marquer. Parce qu'à l'arrivée des Espagnols dans les années 1500, Mitla était encore habité, il y avait un cacique, il y avait un chef qui vivait dans un de ces palais, et on comprend que ces palais ont peut-être été utilisés comme cela, comme des successions, comme si on passait d'un palais à l'autre, comme si un palais lui-même pouvait être un lieu d'enterrement, peut-être ce qui expliquerait la raison du mot Mitla, de l'enterrement, mm-hmm. du lieu où il y a des tombes, et il y a particulièrement dans une cour qui est la mieux conservée. Essayez d'imaginer une cour qui fait un peu plus de 50 mètres de côté, qui est parfaitement lisse, et autour de vous, mentalement, vous allez reconstruire quatre temples complets avec ces grecs, des escaliers qui montent doucement, comme si vous étiez dans un entonnoir.
En fait, ils entourent le village.
Le patio. Non, c'est pas un village, c'est vraiment le patio, c'est une place, comme ceci, avec chaque fois quatre bâtiments. Et vous répétez cela 5 fois.
Ah,
vous avez véritablement une sorte de croix de bâtiments autour d'une place centrale et cérémonielle qui est complètement invisible de l'extérieur. Et la partie la plus impressionnante, c'est celle où les escaliers montent jusqu'à une forme de colonnade. Alors, au pied de la colonnade, très souvent, il y a une sorte de crypte. Une sorte de tombe. Il y en a même une où on a dû rajouter une colonne pour que ça ne s'écroule pas. Et d'ailleurs, c'est toujours amusant de voir les Mexicains qui visitent Mitla. C'est leur but. Ils cherchent la colonne. Et cette colonne, ils ont besoin de la voir. Il y a encore une grande partie métallique qui vient la protéger parce qu'elle risque de casser. Et là, c'est systématique. Les gens du peuple, les gens qui ont fait 600 km depuis Mexico, ou qui viennent du village d'à côté, systématiquement, comme je le disais tout au début, ils passent leurs bras autour de cette colonne. Et puis, naturellement, la petite amie ou le copain va prendre les doigts de sa main et compter le nombre d'années qui restent entre les deux palmes. Hein. C'est-à-dire que quand vous serrez la colonne, obligatoirement, il y a un petit espace qui reste comme ça. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq mains éventuellement. Ouais. Bien sûr qu'un enfant n'en fait pas le tour de la même manière qu'un adulte. Hein. Et ça, c'est resté un peu la légende de Mitla. Mais ce sont des tombes en forme de croix et on peut les visiter carrément, on peut pénétrer dans ces tombes et naturellement, elles sont décorées une fois de plus de grecs. Alors là, on est déjà intrigué parce qu'en général, ces tombes qui sont vides aujourd'hui sont décorées de grecs qui sont prises dans la masse. Alors là, on commence à se poser des questions. Il n'y a pas d'instrument de métal. Je parlais d'orfèvrerie, mais la métallurgie au sens dur du terme n'existait pas. Pas de fer, pas de cuivre solide, etc. Donc tout a été taillé avec de la pierre. Et vous montez l'escalier principal. Alors, on peut remettre de la couleur, puisque j'ai évoqué le plâtre, le stuc tout à l'heure. On pourrait mettre le rouge un peu partout. Ces grecs qui sont de véritables panneaux, comme si c'était des parchemins dépliés, hein, comme si on avait l'impression de grandes tapisseries avec des motifs qui font d'ailleurs penser beaucoup plus à du textile, au tapis qu'on a vu tout à l'heure dans la rue, au sarape que portaient les hommes, ces espèces de ponchos, je dirais même à tous ces tissages de châles des femmes. Et bien on a l'impression de revoir cela avec des motifs aquatiques. Je dis aquatique parce que le nuage et tout ça, ça représente le mauvais temps surtout. Hein. C'est ce qu'on attend le plus dans la vallée de Oaxaca, c'est l'eau. Et en fait, quand on se dirige vers cet escalier et qu'on monte, alors là, on a un premier choc. Il faut être observateur à Mitla. Vous avez une porte d'entrée qui est très basse, on peut même se taper la tête, avec un linteau. Hein. Vous voyez ce que c'est qu'un linteau, c'est le dessus de la porte. Et le linteau, là, il doit facilement faire mentalement, si j'y étais, qu'est-ce que je mettrais, 5 ou 6 mètres de longueur deux fois. Et vous allez remarquer que finalement, ce linteau est fait d'un seul bloc. C'est-à-dire 20 ou 30 tonnes de pierre. Et qu'on passe instinctivement de la bibliothèque découpée de tout à l'heure pour les morceaux de pierre au linteau et que le dessin continue. La grecque continue sur cet immense bloc, sur 1, 2, 3, 4 mètres. On a exactement le même motif de grecque qui a été creusé à l'intérieur. Alors là, ça devient affolant parce que poser ceci sur le vide ou sur une colonne centrale et vous passez la tête en la baissant, vous arrivez tout à coup à l'intérieur d'une salle qui est très très longue avec des colonnes. Mais des colonnes, alors là, on ne peut vraiment plus en faire le tour. Il faut être au moins deux ou voire trois pour arriver à faire le tour de ces colonnes qui sont des monolithes, c'est-à-dire d'un seul bloc, des colonnes qui montent à 3-4 mètres de hauteur et qui font presque 1,50 m de diamètre à la partie centrale et qui ont été posées comme des fûts, là, vlaf, en plein centre et qui tenaient une toiture plane avec naturellement deux systèmes de poutres. Vous avez une salle d'audience absolument somptueuse avec des petites niches qui sont décalées par rapport à l'entrée.
En fait
ça, je ne peux pas vous dire. C'est le silence absolu. Nous sommes en pleine archéologie et on sait que ce sont des salles de réception. Je veux dire par là que vous êtes accueillis vraiment par celui que vous imaginez être le seigneur de l'endroit. Mais il n'est pas là, vous êtes dans l'antichambre. On le sait parce que, à part les niches qui ont dû contenir des statues, des céramiques et des choses comme ça, il n'y a qu'une toute petite porte qui se trouve non pas en face de l'axe de l'immense portique, mais un peu décalée sur la droite. Et quand vous vous glissez sous cette porte, elle fait à peine 1,30 m, 1,40 m de hauteur. Attention à la tête. Il y a même des consolidations aujourd'hui avec du métal parce que ça risque de s'écrouler. Vous allez vous trouver dans un couloir qui lui-même est cassé plusieurs fois. C'est-à-dire une sorte de petit labyrinthe qui empêche de voir ce qui est à l'autre bout.
Ouais, tout à fait.
Et finalement, avec les cassures...
Ça empêche de voir le Seigneur arriver.
Et non seulement arriver, mais la surprise, c'est quand vous arrivez au bout du couloir et que tout à coup, vous débouchez dans le patio lui-même, dans le cœur même du palais. Alors là, c'est vraiment l'extase. Autour de vous, il n'y a que des Grecs. Il n'y a que ces dépliants de pierre autour de vous sur les quatre bâtiments qui eux-mêmes sont percés de quatre grands portiques, de quatre portes qui vous font pénétrer elles-mêmes dans quatre pièces immenses qui elles-mêmes à l'intérieur sont décorées de grecs. Et certaines ont été recouvertes par les archéologues. On a remis le toit de bambou, on a remis le toit de bois et on a laissé cette pénombre. Et vous avez ces grecs qui continuent comme cela, comme des pages d'écriture, des pages de dessin, des motifs textiles qui se répètent sans arrêt. Et tout à coup dans votre tête, on commence à penser moulin à prière. C'est comme si vous disiez nuage, 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 nuage arrivé. Il y a vraiment un acte de sorcellerie qui commence simplement à se dessiner sur les parois de ces immenses salles très longues, complètement vides. Pourquoi pas vides, puisque ces boîtes sont des boîtes de pouvoir.
Glass of cold champagne wine. The rug that we lie on feels divine. And there's no, 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 no parallel. For we now.
sommes en pleine magie, Maurice. On est à l'intérieur de ces palais.
C'est vrai, j'étais même en train de rêver. Là, je revenais dans la cour principale, je voyais l'oratoire au centre, j'y mettais de la musique, des musiciens, un côté fête intérieure, fête interdite, fête non visible de l'extérieur. Rappelez-vous que l'extérieur était simplement décoré par des Grecs qui sont en plein soleil, qui jouent même avec cette lumière solaire, puisqu'elles sont toujours un peu en retrait, comme dans des tableaux teints. Et puis là, à l'intérieur, vous avez une cérémonie. Vous l'entendez, mais vous ne la voyez pas. Et puis ensuite, vous êtes invité à partir de cette cérémonie à monter l'escalier. Vous passez cette porte, ces colonnades étranges, vous êtes dans l'obscurité déjà, vous ne voyez même pas la petite porte du labyrinthe, on va peut-être vous l'indiquer à un moment donné, et vous allez suivre cette espèce de couloir serpentin, même s'il est simplement cassé, extrêmement rigide, et puis au bout vous retrouvez le soleil, et ensuite on vous invite dans une des quatre pièces qui elles-mêmes sont dans le noir absolu, vous avez dû baisser la tête une fois de plus. Il y a vraiment cette impression d'extérieur ensoleillé avec ce que vous regardez dehors, c'est-à-dire les nuages qui courent dans le ciel, et quand vous êtes à l'intérieur, vous pensez à cette eau qui s'ouvre comme ça, qui sort des sources, les rivières, l'inframonde. C'est involontaire, c'est des choses qu'on sent quand on est un peu indien dans les veines. On imagine les cérémonies et puis surtout ce grand cacique qui utilisait cette espèce de corbeille incroyable de pouvoir comme un sorcier africain pour prouver qu'il tenait tout en main. Le cosmos, le temps, le calendrier, l'agriculture et cette vallée. Alors quand vous sortez de là, vous la voyez différemment, cette vallée de Oaxaca. Quand vous reprenez la route...
En fait, les quatre palais, il y en a quatre.
Il y en a cinq, oui.
Cinq
avec l'église.
Les cinq sont les mêmes, identiques.
Non, pas tout à fait. Ils ont des époques un peu différentes. On ne sait pas toujours quand ils ont été construits, mais ça se rapproche de l'arrivée des Espagnols. C'est-à-dire, en tout cas, à partir de 1200, 1400, 1500 même, pour les dernières touches, si j'ose dire. Et celui, par exemple, qui est à côté de l'église, puisque l'église n'a occupé qu'un des patios, si vous voulez, eh bien, il y a quelque chose d'assez curieux. Il n'y a plus de taille aussi profonde. Il n'y a plus ces Grecs aberrantes qui ont demandé des mois et des mois de travail, et je dirais presque de l'industrie du découpage, d'une précision diabolique. Là, au contraire, on a créé souvent des longs panneaux qui étaient simplement des parchemins, c'est-à-dire en fait des livres pliés en accordéon, dépliés. Je veux dire que ce sont de véritables tapisseries où on voit les motifs encore de certains dieux, de certaines formes d'écriture, les Mixtèques.
C'était donc pas les mêmes architectes.
Si, mais les Mixtèques ou les Apothèques adoraient l'écriture, adoraient les hiéroglyphes. Donc ils ont en fait raconté des histoires, des bandes dessinées sur leurs bâtiments. Mmh. Tout à l'heure, ces Grecs sous forme textile, quand on connaît les textiles, on sait très bien qu'un motif textile, c'est de l'écriture. C'est, on parle de dieux, on parle de nuages, on parle de clans, etc. Et bien là, au contraire, on avait décidé de reproduire les pages du livre plutôt que la bibliothèque de tout à l'heure qui était entassée comme cela. C'est une autre fonction, mais c'est exactement la même signification.
Donc là, on sort de ces palais et on voit toute cette vallée différemment.
Elle est toujours assez plane, mais on la voit différemment parce que maintenant on a compris l'importance de l'agriculture, de la vie. On croise des bœufs avec encore ces vieux attelages, ces énormes roues en bois cerclées. Il y a une lenteur, il y a une façon très, très, très chaleureuse de comprendre que cette vallée est riche, mais que le monde paysan existe. Alors, un peu plus loin, il y a le site de Yagoul, par exemple. Yagoul, c'est l'intermédiaire entre Mitla et Monte Alban. Là, c'est un peu scientifique, mais c'est entre les Apothèques et les Mixtecs. C'est une espèce de doux mélange. Mais c'est un lieu que j'aime bien. C'est au bord de la route, comme ça, vous glissez, vous remontez une pente et vous voyez une espèce d'énorme rocher, comme ça, comme une chose couchée dans la vallée. Hein. Un beau rocher jaune avec des cactus un peu partout. Il y a surtout des cactus cierges, plein de cochenilles, vous savez, les toutes petites larves qui sont posées là en blanc sur le cactus vert. Et puis, il y a un jeu de pelote, il y a une ambiance, il y a toujours ce vent. Et quand vous êtes au sommet de la colline qui elle-même a été fortifiée par les Indiens précolombiens, vous avez cette vue que j'évoquais, c'est-à-dire des centaines, des milliers de champs les uns derrière les autres, du jaune, du vert, du gris, toutes les céréales d'aujourd'hui.
Ben voilà, justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'on y cultive ?
Le maïs, surtout, bien sûr, et puis toutes les choses secondaires qui vont de la fève, en finissant par le haricot, enfin, c'est vraiment une zone extrêmement riche, même en arbres fruitiers, et 1600, c'est vraiment la température idéale pour tout faire pousser. Et quand on avance comme ça dans la vallée, on a envie de s'arrêter peut-être aussi à Dainsu. À Dainsu, bon, il n'y a peut-être plus les mêmes motifs que tout à l'heure, il n'y a plus ces tombe, mais il y a par exemple c'est carrément appuyé contre une espèce de grosse montagne, c'est un site qui est posé comme ça, comme une application publicitaire, et là on a retrouvé des blocs énormes de la première époque, du début de notre ère, et ces blocs énormes nous représentent des personnages qui sont des joueurs de pelote, un peu comme des joueurs de pelote basque qui sont gravés dans la matière, comme ça, avec des masques, avec des grosses boules de caoutchouc dans les mains. Là, on sent le côté de la première civilisation. Quand on va un peu plus loin, eh ben, on a envie peut-être de s'arrêter aussi dans un village que j'aime beaucoup. Quand on le voit pour la première fois, on se dit, tiens, on est encore au 19e siècle, ce serait Tlacolula. Tlacolula, une église où on pénètre à l'intérieur, il n'y a pas de lumière, il y a de vieilles fresques, il y a toujours ces bœufs et ces attelages à l'extérieur, ça sent sent, ça sent le mezcal un peu partout parce qu'on exploite cet alcool. Un marché, un grand marché selon le jour. Vraiment, tous les Indiens de la vallée peuvent se réunir dans ces petites églises et en même temps autour de ces églises, dans ces villages. Et tout à l'heure, on ira peut-être à Teotitlan del Valle.
Nous sommes à Tlacolula, on va essayer de le prononcer correctement.
Ouais, c'est bien dit. Il y a un marché somptueux le samedi, un marché où... Bon, là, systématiquement, j'enlève tout. Hein. Ça m'est arrivé d'être attaqué ou qu'on me fasse les poches, comme n'importe quel voyageur. On ne perd rien si on ne voyage pas.
Donc, on se fait braquer.
Non, pas braquer du tout. Non. Simplement qu'on se demande si, en plus de votre mouchoir, vous avez peut-être quelque chose d'intéressant, c'est tout. Mm. C'est simplement un intérêt en rapport avec le volume de vos poches ou ce que vous avez à l'intérieur. Mais ça, c'est dans tous les marchés de toute l'Amérique latine, et je dirais même du monde entier, finalement, parce que dans n'importe quelle halle, de n'importe où, on peut aussi se faire les poches. Mais en l'occurrence, la Colula, c'est surtout cette église paroissiale. Cette petite église du XVIe siècle, moi, elle a quelque chose de nostalgique, de nouveau, parce qu'elle n'a pas été restaurée. Elle fait penser vraiment à ce que le baroque nous a offert de mieux, avec cette facture typiquement indigène. Et puis comme c'est complètement sombre, enfumé, il faut vraiment exercer son œil après la force du soleil de l'extérieur. Il y a une grille extraordinaire, il y a un travail de la ferronnerie. Et puis, il y a, y a ces sculptures de la voûte et de la galerie là qui nous font penser à ce que Oaxaca va nous offrir de meilleur. Oaxaca, c'est l'exubérance, l'or, les couleurs, des églises qui sont, c'est le sucre candy. Hein. On a l'impression que tout cela est travaillé comme une somptueuse pâtisserie et ça devient très très beau finalement. Et moi, j'ai vécu par exemple les fêtes du mois d'octobre, les fêtes paroissiales de cet endroit. Ou alors tiens, je parlais de Teotitlan del Valle tout à l'heure. Il y a une fête.
C'est là d'ailleurs on va se diriger. Hein.
Oui, parce qu'il y a un petit village qui s'appelle Santiago qui est juste à côté. C'est la fête du 25 juillet. Je me rappelle de souvenirs assez extraordinaires. Vous savez, dans les campagnes en général, quand il y a une fête, il y a des orchestres un peu partout, il y a une petite procession, il y a bien sûr tout ce qu'il faut pour égayer le peuple, mais il y a souvent aussi ces arbres, enfin comment est-ce qu'on appelle ça, ces mats de cocagne, voilà. Alors les mats de cocagne dans la région de Oaxaca, c'est quelque chose que j'ai vu de temps en temps en Amérique latine, mais là c'était vraiment une façon d'utiliser le mat de cocagne qui est extrêmement taquine. On essaye toujours que le mat soit glissant, mais là on y mettait, vous savez, la vraie graisse de char. Que vous prenez à pleine main dans un... et vous
c'est
en mettez.
La graisse de char.
Oui, c'est-à-dire c'est cette graisse qu'on utilise pour la mécanique et qui est une sorte de crème comme ça incroyablement noire parce qu'elle a déjà été utilisée. Et puis vous mettez ça tout le long du mât. Hein. Et puis vous avez les jeunes qui obligatoirement s'habillent le minimum, c'est-à-dire un simple short, et qui essayent d'aller attraper les quelques friandises qu'ils ont au sommet. C'est vraiment le vieux mât de cocagne comme on le rêvait chez nous au Moyen-Âge. Et ils font 2 mètres et vroom, ils se retrouvent par terre. Ils sont sales, enfin ils en ont jusqu'aux oreilles. Et celui qui arrive en haut, c'est celui qui naturellement a eu la chance de nettoyer le mât par tous les précédents qui y ont passé. Mmh. Et j'étais à Teotitlan del Valle, je dirais aussi que c'est un endroit curieux parce qu'on entre dans le village, il ne se passe rien, et c'est pourtant là qu'on fait les plus beaux sarapes. Les sarapes, ce sont ces ponchos, ces tapis de laine dans la région, c'est vraiment la spécialité de Oaxaca, avec ces motifs qui ressemblent à ceux de Mitla. Alors on utilise des produits naturels aujourd'hui, c'est-à-dire tous les colorants sont naturels. La cochenille, qui est donc cette larve qu'on écrase et qui donne cette superbe couleur rougeâtre, enfin presque pourpre. Il y a par exemple, qu'est-ce qu'on utilise ? Ben tiens, le noyau des avocats. Vous les broyez, vous avez une teinte d'un brun, ces bruns cannelle comme ça, extrêmement raffiné sur de la laine blanche, c'est encore plus doux.
Donc aucun pigment qui vient de la terre ?
Si, on peut utiliser bien sûr des pigments terrestres ou minéraux, mais je veux dire par là que toutes les couleurs que vous retrouvez sur ces tapis sont naturelles. Alors des jaunes qui ont des tons mordorés, comme ça, très doux, des roses absolument sublimes, des bleus qui font penser au bleu de cobalt réadouci. C'est vrai qu'on est très impressionné aujourd'hui par le travail de ces tapis de laine. Et Teotitlan del Valle, c'est un endroit où on peut passer d'un atelier à l'autre. Les hommes sont là pour tisser, enfin, ce sont les grands tissages à pied et à main, vous savez, avec les grandes navettes. Et ils vous font des kilomètres de tapis, mais qui ont toujours la même forme. C'est-à-dire qu'en principe, ils sont faits dans les règles du sarap, qui était porté par les hommes avec le trou au centre, simplement, et qui servait de manteau, déjà à l'époque précolombienne. Et aujourd'hui, les grands artistes du Mexique, même Toledo, je me rappelle avoir vu même certains motifs de Tamayo. Curieusement, aujourd'hui, on voit même du Miro ou du Picasso. C'est-à-dire que ces gens-là sont capables de vous reproduire une œuvre contemporaine, ou alors un lycée, quelqu'un leur apporte un carton, un grand peintre, comme j'évoquais. Toledo demande de reproduire une œuvre sur tapis. Ce sont des lycées et des gens qui ont pratiquement réussi à faire ce qu'on trouve en France avec de l'Aubusson ou les grandes tapisseries. Mais bien sûr, c'est simplement fait avec des lainages tressés. Alors ça, ce sont des lieux où on peut perdre des heures à flâner et à chercher le plus beau de ces tapis. Et quand on continue sur cette route, imaginez une vallée qui fait 4 à 5 kilomètres de largeur, avec votre route bien droite au centre, des sommets très doux un peu partout, la verdure que j'évoquais, ce printemps toute l'année. Il y a un lieu où je m'arrête toujours très volontiers, parce que ça évoque aussi ce côté assez curieux de la nature, c'est Toulé. Toulé, c'est un lieu qui a dû être très très humide, il l'est un peu moins aujourd'hui, et c'est un lieu où a poussé en quantité cet arbre que j'évoquais à l'entrée de Mitla, c'est-à-dire l'ahuehuete. En fait, c'est un taxodium, c'est le taxodium du Mexique, et c'est un arbre qui fait partie de la famille des cyprès, et qui est une véritable pompe à eau. Alors, les plus vieux, celui de Toulé, on pense que c'est le plus vieux de toute la vallée, il doit avoir au minimum 2000 à 2500 ans. Et il est là, à côté d'une petite église. Je dis petite parce que l'église paraît minuscule. Essayez d'imaginer un arbre dont le tronc fait déjà 42 mètres de circonférence. Et ce tronc est lui-même complètement rongé parce qu'il n'est pas rond et unique. Il est fait de ramifications. On a l'impression qu'on peut pénétrer, que les petits oiseaux peuvent s'y cacher. C'est une chose immense avec des ramifications qui ne vont pas très haut. Finalement, il fait 40 ou 45 mètres de hauteur. Et son tronc qui lui fait 42 mètres, est presque aussi volumineux. C'est-à-dire que les branches sont assez courtes, mais le tronc est maintenant entouré d'une petite barrière et on insuffle systématiquement tous les jours des milliers et des milliers de litres d'eau pour que cet arbre ne meure pas. L'église à côté, qui est pourtant normale, paraît minuscule. La porte de l'église, c'est un peu comme si on rentrait dans le tronc d'arbre.
On the beat.
Là, on est carrément sur la plage.
Oui, mais retournez-vous.
Rien à voir.
Avec l'arbre.
Oui.
Ah bah, retournez-vous, là, il y a juste un écureuil qui vient de grimper, là. C'est vrai, c'est impressionnant d'être sous un arbre de 40 mètres de hauteur. Et ce tronc qui fait 42 mètres, on l'a véritablement mesuré. Les 2500 ans, c'est rien. C'est surtout le fait de sentir que cet arbre a ce côté vieillissant et qu'il est aussi travaillé que cela. Et en l'occurrence, quand on vit comme ça autour de l'endroit, bah, il y a toujours des enfants qui veulent vous raconter l'histoire de l'arbre, qui veulent vous prendre, on vous donne le poids. Enfin, tout cela est décrit de façon absolue sur un simple écriteau à côté de la
Il faut absolument s'arrêter.
Ah oui, à Toulé, ça vaut la peine parce qu'il y a un petit marché et puis vous avez la vendeuse de si c'est la saison des mangues par exemple, elle prend. Vous avez déjà pris un crayon en main, c'est un simple morceau de bois et vous fichez votre mangue au bout du morceau de bois pointu. Attendez, il faut être subtil, il faut la préparer, et il faut la peler bien sûr. Mm-hmm. Et puis ensuite, comme le noyau est bien tenu au centre par la barre de bois, vous allez ensuite couper cela en étoiles petit à petit, en commençant par le bas et vous montez petit à petit. Hein. Vous allez faire une sorte d'épi avec la mangue que vous allez pouvoir manger sans aucun problème. Mmh. Ça fond véritablement dans la bouche. Un peu plus loin, il y a une dame que je connais depuis au moins 15 ans. Elle est toujours installée au même endroit de ce petit marché qui a un petit peu été transformé, mais elle est toujours là au bord de la route. Elle a toujours son petit foyer sur trois briques avec du charbon de bois. Par-dessus, elle a mis une plaque de tôle et puis elle a une petite table avec de la toile cirée, quelques verres qui traînent, qu'elle lave dans une cuvette un peu douteuse. Mais par contre, elle a des tortillas, on entend le bruit systématiquement comme ça quand elle tape des mains, et puis elle prépare ses tortillas, et à l'intérieur, elle sait y glisser, par exemple, une dizaine de fleurs de calebasse.
Les tortillas de maïs, donc
C'est de la tortilla et de maïs, bien sûr, Frédéric. Mais en l'occurrence, à l'intérieur, elle y glisse, c'est sa spécialité, des grandes fleurs de courge. Hein. De calebasse qu'elle laisse vraiment fondre sur la chaleur de sa plaque. Ben voilà, par exemple, un petit rien.
Ça donne quoi comme goût?
La fleur de calebasse, c'est la fleur de courge. On en utilise aussi dans la cuisine chez nous. Hein. On trouve ça maintenant dans la nouvelle cuisine. Ça a le goût de la courge, mais avec un côté presque sucré, comme ça. C'est un goût très, très, très subtil. Et les pétales sont jaunes, hein, c'est une espèce de corolle jaune, comme ça. Fondent vraiment dans la bouche, parce que ça s'est ramolli avec la chaleur. C'est très, très agréable à déguster. Et puis, on pourrait boire éventuellement un alcool local, mais il y a aussi des chocolats. On a une spécialité à Oaxaca aussi, c'est de rehausser certains plats, comme le poulet ou le dindon, avec un mollet. Le mollet de Oaxaca est beaucoup plus rouge, beaucoup moins noir que celui de Puebla. C'est une masse de piment, de chocolat, d'amandes mélangées. C'est aussi très agréable. Enfin, il y a vraiment des petites choses comme ça sur ces marchés. Il faut avoir un peu d'audace, c'est vrai. Là, je parlais de la cuvette tout à l'heure. L'eau n'est pas toujours très propre. Il faut savoir être prudent. Mais quand c'est cuit, après tout, il y a déjà beaucoup moins de danger. Un tapis, un petit souvenir, un petit rien qui sera tressé. Beaucoup d'artisanat à Oaxaca. Peut-être la ville la plus riche. On est encore à quelques kilomètres. On n'a même pas fait 40 km aujourd'hui depuis Mitla. On va se retrouver à l'entrée de cette ville, une ville qui est couchée, vraiment, couchée dans le fond de cette vallée. Alors, je dirais que si maintenant je pouvais d'un seul coup, en claquant des doigts, me retrouver à quelque part, je serais incontestablement assis sur le Tzocalo de Oaxaca. Le Tzocalo de Oaxaca, c'est un endroit de rêve. J'ai parlé de la température. C'est un endroit que je vais appeler le centre du monde. Il y a des lieux comme cela qui, par magie, ont été transformés. On a plus de voitures maintenant là sur cette place centrale. Il n'y a plus de circulation. Alors, il y a deux solutions. Je dirais que... on en reparlera peut-être la prochaine fois. On redécrira cet endroit parce qu'il a quelque chose de fou. Il y a le petit kiosque.
Vous voulez dire actuellement, l'heure actuelle ?
Oui. Le kiosque est au milieu. C'est une sorte de lieu d'écoute interdit la journée qui, le soir, s'anime avec des musiciens. Et puis, en même temps, vous avez tout autour, il y a deux solutions. Soit vous marchez, vous tournez autour du Tzocalo et c'est vous qui tournez autour du centre de la vie, ou alors vous êtes assis et vous regardez les autres qui, eux, tournent doucement autour de vous. Et ça se fait à n'importe quelle heure du jour, mais particulièrement en fin de journée. Je dirais que le 6, 7, 8, c'est vraiment l'heure idéale pour découvrir une place qui a gardé son charme d'antan, ce côté colonial. Et Oaxaca, finalement, c'est la ville que je dirais idéale par rapport à ce qu'on peut rêver ailleurs au Mexique. Il y a un lieu. Il y a même un axe, le Tzocalo. Au nord, vous avez le côté piéton, vous avez la cathédrale. Au sud, vous avez l'ancien site et le marché, le lieu où l'on se réunissait et où on se réunit encore aujourd'hui. Le lieu laïque, le lieu sacré, et puis ce centre du monde, cette terrasse que j'évoque, qui vraiment... là, mettez-vous sur celle de l'hôtel Marquès, par exemple. C'est le lieu idéal. Vous allez voir. Il y a des lieux comme cela où le monde entier tourne autour de vous. La température est toujours idéale. 25
Ah oui, oui, 25.
27, avec un petit verre à la main, vous verrez que vous tenez des heures, des jours, des années. Je connais des gens qui sont restés sans s'en apercevoir pendant toute leur vie à Oaxaca.
Et dimanche prochain, on se retrouve du côté de Montalban.
Montalban, ou alors à moins qu'on reste bloqué carrément une heure sur le Zocalo en imaginant Oaxaca, ses musées, ses églises, son style colonial. J'y resterai aussi toute une vie.